Utopod 029, 28 mars 2009, Mudville, d'André Ourednik. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode d'Utopod. Il y a un peu plus d'une semaine, Utopod soufflait ses deux bougies. Que de chemin parcouru depuis le 17 mars 2007. Une liste d'auteurs toujours plus étoffée, des financements ponctuels décrochés, de nouveaux comédiens intégrés à l'équipe de lecture, des collaborations mises sur pied avec des sites, des éditeurs, des revues. Bref, toute une série de choses qui font qu'Utopod avance, évolue et a de beaux jours devant lui. Pour l'occasion, si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas faire un petit geste pour votre podcast préféré? Vous pouvez soit faire un don en cliquant sur l'icône euro en bas de la page d'accueil du site www.utopod.com, soit amener une personne ou plusieurs à s'abonner à Utopod. Merci d'avance. Aujourd'hui, je vous propose un texte hilarant et complètement barré. Mudville, nouvelle inédite et spécialement concoctée pour vous par un jeune auteur de talent, André Ourednik. André est né à Prague en 1978. Après bien des téléportations qui l'amènent de Suisse romande en Suisse alémanique via la Nouvelle-Écosse, il atterrit finalement à Lausanne où il prépare actuellement une thèse de doctorat en géographie. Il écrit en français mais parle couramment six autres langues. Passionné de philosophie, de programmation, de songwriting et de poésie expérimentale, il distille des textes décalés qui respirent à la fois la chanson de Thiéfaine, les nouvelles d'Agrati et les univers inquiétants de Lynch. Pour tout savoir sur les 1000 activités de cet être protéiforme, www.ourednik.info. À la lecture et au montage de la nouvelle d'aujourd'hui, Sylvain Demière. Et maintenant, servez-vous un bon verre de cidre, dites adieu à votre situation sociale et place à la littérature.
Mudville, d'André Ourednik. Une voiture de police roulait sur une route de campagne. Un homme en manteau gris haletait derrière en agitant les bras et n'avait de toute évidence aucune chance de la rattraper car elle accélérait à vue d'œil. Sur la cantonale, qui passait à une centaine de mètres de là, Joël et Rachid furent percutés par la scène. Ils se retournèrent pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais ils roulaient à 100 à l'heure et le bonhomme en gris se réduisit vite à un souvenir improbable. « T'as vu ça ?» demanda Joël au conducteur.
« Ouais. »
« C'était bizarre, non ?»«
Bah, pas plus bizarre que Mudville, »
dit le conducteur d'une voix blasée. Le passager ne dit rien du tout. Il roulait un joint. Assis sur la banquette arrière, Joël et Rachid se sentaient comme des enfants emmenés en voyage de famille sans qu'on leur ait vraiment demandé leur avis. Ils venaient de leur propre gré, bien sûr, mais cela leur faisait étrange, maintenant, de retourner à Mudville après toutes ces années.
« Tu te souviens de la soirée chez Jack Paul ?» dit Joël à Rachid. « La fois où il a assommé un gars avec une boule de billard ?»«
Non, l'autre !» Celle où l'un de ses locataires est venu le menacer avec un chien.
Ils rigolèrent sur le siège arrière. Rachid écrivait une thèse sur les familles recomposées. Joël avait galéré un peu à la fin des Beaux-Arts, mais il avait fini par décrocher un job dans le design industriel. Les deux s'en sortaient plutôt bien, comme on disait à Mudville. Le conducteur et le passager empilaient des caisses à la cidrerie. D'une certaine manière, c'était leur victoire sur le destin que Joël et Rachid venaient célébrer. Ces gens étaient des amis d'enfance, bien sûr, et le plaisir de retrouver l'ambiance d'antan les avait même poussés à mettre des habits de l'époque qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils portaient dans la capitale. C'était une façon comme une autre de revenir aux sources. Mais sentir la différence aussi, qui les séparait désormais des autres, les emplissait d'une satisfaction secrète. Comme si cela les confortait dans les choix qu'ils avaient faits. Ce sentiment devint de plus en plus clair durant les premières heures de la soirée. Les Mudvillois n'avaient pas grand-chose à raconter, mis à part les incidents cocasses des soirées précédentes qui, en somme, se ressemblaient toutes. Quelqu'un était allé à la fête foraine de la ville d'à côté, mais comme personne ne connaissait les gens de ce côté-là, il lui sembla que ça ne valait pas la peine d'en parler. Au fil de la conversation, Rachid était de plus en plus surpris d'entendre combien d'entre eux avaient fini à la cidrerie.
« Quoi ? Toi aussi tu bosses là-bas maintenant ? » s'exclama-t-il face au cinquième Mudvillois qui lui racontait la même histoire.
« Ouais, depuis juin. »
Ne sachant quoi rajouter, Rachid prétexta que son verre était vide pour s'éloigner. Il parla ainsi avec 4 ou 5 autres personnes. Au bout de 4 heures, l'ambiance avait basculé. Les stupéfiants avaient rendu imperceptible la différence entre l'enlisement des uns et l'éloignement des autres. Les catégories existentielles de l'âge adulte, comme aurait dit Rachid dans sa thèse, s'étaient dissipées au profit d'un émerveillement immaculé devant les objets.
« T'as vu ce bout de bois ?»
dit quelqu'un en brandissant une branche fourchue.
« Il est incroyable !» dit Joël. « On dirait la main d'un vieillard !»« D'un nain magicien !»
ajouta quelqu'un d'autre. Cela ressemblait à l'enfance, avec plus de mots. Joël et Rachid auraient pu continuer ainsi pendant des heures. Mais quelqu'un finit par crier
« Hé les gars, on va chez Jack Paul !»
Jack Paul n'avait pas changé. Il avait toujours ce visage bouffi au large sourire servile et s'adressait à tout le monde avec sa voix nasillarde. En l'observant seulement pendant quelques heures, on aurait pu croire que ce n'était qu'un gentil demeuré.
« Alors les gars, je vous sers quoi ?» dit Jack Paul.
« Il te reste quoi, Jack Paul ?»«
J'ai tout vendu, les gars. Il me reste du cidre. »«
Alors du cidre pour tout le monde !»«
Je paye la tournée, les gars. »«
Cool, Jack Paul !»«
Allez, va apporter du cidre !»
dit Jack Paul à une petite fille qui jouait avec sa sœur. Elles avaient construit une tente derrière le comptoir. Peut-être qu'elles avaient l'intention de dormir dedans.
« C'est les enfants de Jack Paul, ça ?»
demanda Joël.
« Ouais, »
répondit l'un des Mudevillois.
« C'est incroyable !»«
C'est Mudeville !»
Ils allaient se lever quand la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas et un immense barbu se jeta dans le bar. Il avait les yeux d'un fou.
« T'es un enculé, Jack Paul »
hurla-t-il.
« Donne-moi la clé de la nouvelle serrure !»«
Je te l'ai dit !» fit Jack Paul d'une voix plus nasillarde que jamais. C'est 12 mois de loyer en avance. Là, tu m'en dois encore 3.
12 mois ? Tu te fous de moi ?
Hurla le barbu.
Pas de loyer, pas de clé.
J'ai tous mes trucs là-dedans. Donne-moi cette clé !
Insistait le barbu.
Non, je les garde, tes trucs. C'est mon gage, j'ai dit, jusqu'à ce que t'aies payé.
Mais j'ai payé, moi ! 9 mois d'avance !
Joël eut un sentiment de déjà-vu et ne put s'empêcher de pouffer de rire.
« Qu'est-ce que tu rigoles, toi ?»
hurla le barbu en se tournant vers leur table. Il était à 10 mètres d'eux.
« Allez, du calme !» fit Rachid. « Qu'est-ce que tu rigoles, toi ?»
hurla le barbu encore une fois, beaucoup plus fort et d'une voix beaucoup plus aiguë qui déraillait. Il sifflait presque. Ses yeux étaient devenus immenses.
« Laisse mes amis tranquilles !»
dit Jack Paul, toujours aussi nasillard.
« Qu'est-ce que tu rigoles ?»
hurlait le barbu de toutes ses forces en lançant des chaises dans tous les sens pour se frayer un chemin vers eux. Sa tête était devenue rouge écarlate. Avant qu'ils aient pu l'arrêter, il se jeta sur Joël et commença à l'étrangler. Ils se mirent à plusieurs pour desserrer son étreinte, mais rien n'y faisait. Rachid le frappait de toutes ses forces. La masse de chair haineuse du barbu ne bougeait pas d'un centimètre et il n'arrêtait pas de hurler.
« Crève ! Crève !
Hé ! « Plante-lui ça !»
cria Jack Paul en tendant un couteau de boucher par-dessus le comptoir. Ne voyant pas d'autre solution, Rachid s'en saisit et le planta entre les côtes du barbu. L'arme s'y figea et Rachid recula de quelques pas, comprenant à peine ce qu'il venait de faire. Le barbu lâcha le cou de Joël qui se mit à tousser, soutenu par les Mudevillois. La bouche du barbu était grande ouverte, comme s'il hurlait, mais seul un faible sifflement en sortait encore. Sa main s'agitait dans son dos en essayant d'agripper le couteau.
« Sors le couteau !»
conseilla Jack Paul. Rachid, complètement désorienté, s'approcha de nouveau et retira le couteau. Un sang noirâtre jaillit de la plaie et le barbu se mit à chanceler. Il se retint encore quelques secondes au coin de la table puis tomba enfin face contre terre.
« Appelez l'ambulance !»
toussa Joël.
« Surtout pas !» « Les flics seraient de la partie !» dit un Mudevillois. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? »
demanda Rachid d'une voix tremblante. Il commençait à peine à revenir à lui.
« Surtout du calme !»
résonna la voix nasillarde de Jack Paul.
« Il n'y a que vous, là. Personne n'a rien vu. »«
C'est vrai, ça !»
dirent les Mudevillois en échangeant des regards bizarres.
« C'est vrai !»
répéta celui qui se tenait le plus près de Rachid en posant une main sur son épaule.
« Désolé, les gars !»«
Comment ça, désolé ?»
demanda Joël en se raclant la gorge. Ils s'étaient assemblés autour d'un bassin bétonné. À une centaine de mètres, les machines de la cidrerie ronronnaient dans la nuit. Il s'en dégageait une odeur douceâtre très particulière qui ressemblait à celle des pommes cuites, mais en même temps, c'était pas tout à fait ça.
« Allez, à trois !» dit Jack Paul.
Rachid et Joël tenaient le corps du barbu par les épaules et par les pieds.
« Un !»
dit un mudevillois.
« Deux !»
dit Joël en balançant le corps en arrière.
« Trois !»
dit Rachid en balançant le corps vers l'avant et en lâchant ses pieds juste au-dessus du bassin. Le corps plongea dans le liquide épais avec un bruit visqueux. Il disparut lentement sous la surface, soulevant à peine quelques remous.
« Parfait !»
conclut Jack Paul. Tout le monde était rentré se coucher, d'humeur maussade. Rachid et Joël attendaient depuis 2 heures à l'arrêt de bus. Ils étaient exténués, mais les souvenirs de ce qu'ils venaient de vivre les tenaient éveillés. Ils se juraient de ne plus jamais remettre les pieds à Mudeville. Ils n'avaient plus que 10 minutes à attendre lorsqu'une ombre se détacha d'une haie. Quelque chose s'avançait dans leur direction.
« Hé, les gars !»
dit l'ombre. Et ils reconnurent la voix de Jack Paul. Ils n'aimaient pas ça.
« Je savais pas que vous alliez partir comme ça, les gars. Heureusement qu'on m'a dit !»
continua Jack Paul.
« Écoute, Jack Paul, là, on a juste envie de se casser. Tu comprends ?»
dit Joël, se doutant bien que Jack Paul ne comprendrait pas vraiment.
« Je vois, les gars, mais... « Il y a un petit problème. C'est que moi, je dois m'occuper un peu du petit bordel que vous avez laissé. Et du coup, j'aurais besoin d'un petit coup de main, pendant un petit bout de temps. »«
Qu'est-ce que tu veux dire, Jack Paul ?»«
Un petit coup de main à la cidrerie, hein? Ça serait sympa !»
dit Jack Paul en affichant son sourire le plus soumis et visqueux.
« On va te faire foutre, Jack Paul !» cria Rachid qui le voyait venir. « Nous, on se casse !»«
Ouais !» « Mais faudrait que je demande à quelqu'un d'autre, du coup, »
continua Jack Paul,
« pour un petit coup de main. Du genre Bouboule. »
Joël et Rachid le savaient très bien. Bouboule, c'était le surnom du gendarme en chef de Mudeville. Jack Paul souriait. Il les tenait. Il se mit en marche direction la fabrique. Joël et Rachid le suivirent en traînant les pieds.
« T'es un vrai enculé, Jack Paul !» dit Rachid.
« Désolé, les gars !» dit Patrick quand Jack Paul était sorti.
Joël et Rachid portaient des bottes et des tabliers en caoutchouc. Ils venaient de finir d'empiler leur première caisse de pommes.
« Ouais, y a pas de quoi !» dit Joël en le regardant à peine.
Patrick s'éloigna, un peu triste, et se remit à enfourner les pommes dans la broyeuse. La même odeur sucrée se dégageait de la machine. Ça imprégnait tous les tissus. Jack Paul fumait une Marlboro rouge juste au-dessus du bassin. Quand il eut fini, il la jeta de côté, se pencha en avant et plongea les deux mains dans la fange sombre où Joël et Rachid avaient fait disparaître le barbu. Il fouilla pendant un petit moment et finit par sentir quelque chose du bout des doigts. Il s'en saisit, c'était un bras. Il fouilla encore un peu avec l'autre main et trouva l'autre bras. Il tira de toutes ses forces. Le corps était lourd cette fois, mais Jack Paul avait l'habitude. En moins de 2, il l'avait entièrement sorti de là.
« Eh bien, dis donc, en voilà une beauté !» rigola Jack Paul.
Une nana noire d'une 30aine d'années toussait sur le sol en béton. Elle s'était mise à genoux et se tenait le ventre. La boue coulait de ses haillons. Jack Paul se saisit du seau d'eau qu'il avait préparé et lui versa son contenu dessus. Sur ce, il lui tendit une serviette.
« Allez, essuie-toi, il y a du boulot !»«
Quel boulot, messieurs ?»
« Mais tu t'en souviens, cocotte, tu bosses pour moi. »«
Je me souviens de rien du tout. »«
Ben, disons que tu te souviens d'avoir envie de manger ce soir. »«
Oui. »«
Alors tu viens avec moi, voilà. On va se promener un peu au bord de la grande route, voir si un de ces messieurs a pas envie de s'arrêter pour une petite gâterie. »«
Mais il fait tout nuit, c'est dangereux. Quelqu'un peut m'écraser. »«
À qui le dis-tu, cocotte ?»
fit Jack Paul tout souriant.
« Un kill, dis-tu ? »
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Une grande nouvelle à annoncer concernant Utopod. Votre podcast littéraire est l'invité officiel de l'édition 2009 des Imaginales, le Festival des mondes imaginaires. L'événement aura lieu du 14 au 17 mai prochain à Épinal en France. C'est un excellent signe de reconnaissance de la part du public et du milieu éditorial, et je suis honoré de participer à cette grande messe annuelle des littératures de l'imaginaire. Pour comble de bonnes nouvelles, Stéphanie Nico, la directrice artistique du festival, a également décidé d'inviter Sylvain Demierre, collaborateur assidu d'Utopod. Il participera à diverses tables rondes, notamment celle qui sera consacrée à Utopod, et assurera de nombreuses lectures littéraires en direct. De plus, il exposera ses illustrations, dont les couvertures effectuées pour la série La Fraternité du Panka, pentalogie de science-fiction de Pierre Bordage, en cours de publication chez l'éditeur nantais La Talente. Autre info, la nouvelle mouture du site d'Utopod est en bonne voie de construction. J'espère pouvoir annoncer sa mise en ligne ces prochains mois. Il s'agira d'un blog beaucoup plus dynamique et intuitif, histoire que nos auditeurs puissent rapidement trouver les infos dont ils ont besoin et naviguer dans les archives aussi facilement que possible. Il y aura peut-être même un forum de discussion, mais cela reste à confirmer. Je vous retrouve le mois prochain avec un texte de SF humoristique écrit par Jean-Jacques Régnier et lu par Jeanne Ferreux. En attendant, lisez beaucoup et portez-vous bien. Bye bye !